Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il sera question de l'origine des protestants en France. La diffusion de ce jour fait partie d'une série de 6 émissions consacrées à l'histoire des franco-protestants en Amérique du Nord. Pour vous mettre dans le contexte, voici l'origine des franco-protestants expliquée par Michel Barbeau. En fait, les franco-protestants de l'époque étaient appelés des huguenots. Au début du 16e siècle, l'Église catholique est de plus en plus contestée. Les mœurs, l'ignorance du clergé, la vente d'indulgences vont amener plusieurs penseurs de l'époque à souhaiter une réforme de l'Église. Au début, on veut réformer l'Église de l'intérieur, mais ce qui arrive, c'est que l'intransigeance puis la lenteur de l'Église catholique vont entraîner un schisme définitif, d'où va émerger le protestantisme. Ce fut le grand mouvement que l'on appela la Réforme. Un Allemand du nom de Luther fut le père de la Réforme. Cette réforme a gagné plusieurs pays d'Europe, notamment les Pays-Bas, la Suisse puis les pays scandinaves. Mais ce qui arrive, c'est que la France ne fut pas en reste. Jean Calvin fut à l'origine de l'Église protestante en France. Les calvinistes héritèrent du surnom de Huguenots vers 1560. Donc, le protestantisme va gagner des adeptes, principalement dans la classe marchande et chez certains nobles en France. François Ier fit preuve au début d'une certaine tolérance, mais il devint intransigeant suite à l'affiche de libelles injurieux contre la messe à la porte même de sa chambre au château d'Amboise en 1534. Cet épisode est connu sous le nom de l'affaire des placards. En 1562, suite au massacre des protestants par les hommes du duc de Guise, on assiste au début de 8 guerres de religion qui mettront la France à feu et à sang pour les 22 ans qui suivirent. Le pouvoir royal en France est chancelant. La dynastie des Valois est à son déclin. Catherine de Médicis et ses deux fils qui régneront, Charles IX et Henri III, tentèrent de diviser pour mieux régner. Les De Guise, alliés du roi d'Espagne, forment la Sainte Ligue qui a pour but d'anéantir les protestants. Ils seront à l'origine, entre autres, du massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572. On profita de la présence des principaux chefs protestants à Paris à l'occasion du mariage de Marguerite de Valois avec Henri de Navarre pour les assassiner. Henri de Navarre, le futur Henri IV, échappa au massacre de justesse. Les De Guise, par la suite, s'emparèrent pratiquement du pouvoir et le roi Henri III dut fuir Paris et se réfugier à Blois. Il convoqua les États généraux en 1588 et tendit un piège au duc de Guise et à son frère, le cardinal de Lorraine. L'année suivante, ce fut au tour d'Henri III d'être assassiné par un moine dominicain. De par la loi du sang, le trône devait revenir à Henri IV, mais une partie importante de la France répugnait à l'idée d'avoir un roi protestant. Henri IV dut reconquérir son royaume par la force. Se butant devant Paris, il ne dut son accession au trône qu'en abjurant sa religion en 1593. Et ça, c'est un point important, mesdames et messieurs. Il a dû abjurer sa religion pour accéder au trône. Et ça, ça nous en dit long sur l'époque et ça va vous aider à comprendre ce qui va se passer par la suite en Nouvelle-France. Je poursuis. Cependant, il promulgua un édit de tolérance mieux connu sous le nom d'Édit de Nantes qui accordait le libre exercice de la religion protestante. Cet édit, qui ne fut révoqué qu'en 1685 par Louis XIV, donna un certain répit aux protestants. Cette liberté fut quand même très partielle. Louis XIII, sous les conseils de son premier ministre, le cardinal de Richelieu, décida de mettre les huguenots au pas. On considère qu'ils constituent un État dans l'État. En 1627, on assiste au siège de la ville de La Rochelle, la ville phare du protestantisme en France. Est-ce que ça vous sonne des cloches, le cardinal de Richelieu, le conseiller du premier ministre du roi XIII. Ça vous sonne pas des cloches? Un fameux récit d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Eh bien, ce cardinal Richelieu, et là, ce n'est pas un récit fantastique, ce n'est pas un roman. Le cardinal Richelieu décide de mettre les Huguenots au pas. On considère qu'ils constituent un État dans l'État. Et ça, c'est souvent la perception que les gens ont des Huguenots, des franco-protestants, des évangéliques. Spécialement les franco-protestants qui sont revendicateurs. Mais on va comprendre un peu plus tard pourquoi, par cette histoire du franco-protestantisme en Amérique du Nord, pourquoi ça en est ainsi. Et c'est important qu'on recule à la France parce que vous allez saisir l'ampleur de cette réalité, saisir l'ampleur du contexte qui a amené ces Huguenots, ces franco-protestants, ou qu'on pourrait dire aujourd'hui ces évangéliques, dans quel contexte ils sont venus en Nouvelle-France. Je poursuis. En 1627, on assiste au siège de la ville de La Rochelle, la ville phare du protestantisme en France. Malgré une alliance avec les Anglais, la ville tombe après un long siège où la population fut décimée par la famine. Durant le règne de Louis XIV, les privilèges des protestants rétréciront comme une peau de chagrin. En 1685, par la révocation de l'Édit de Nantes, les protestants doivent cesser de pratiquer leur religion. Les pasteurs ont 24 heures pour quitter le pays. Les temples sont détruits. Plusieurs Huguenots choisiront de fuir la France pour les Pays-Bas, l'Angleterre, les États-Unis et même aussi loin qu'en Russie et en Afrique du Sud. On estime que 150 à 200 000 personnes ont dû quitter le pays. Ceux qui demeurent en France se convertissent, mais plusieurs pratiqueront leur religion clandestinement. Cette saignée de la population française fera très mal. La France perd ses meilleurs artisans et marchands. Leur savoir-faire sera mis au service des pays, leur servant de refuge et aura un effet désastreux sur l'économie française. Et donc, le départ des Huguenots a eu des répercussions, des conséquences sociales. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Leur savoir-faire sera mis au service des pays, leur servant de refuge et aura un effet désastreux sur l'économie française. Les Huguenots étaient des gens impliqués socialement. Il y avait un impact. Leur départ s'est fait sentir. Parce que si tous les évangéliques, par exemple, les franco-protestants ici au Québec, quittaient à cause de la persécution, à cause qu'on leur empêche de pratiquer, comme on le dit dans le langage courant, de pratiquer leur religion, est-ce que ça ferait un changement? Mais à cette époque-là, oui. Je continue. Les Huguenots représentaient environ 15 % de la population de France et étaient concentrés surtout dans les provinces du sud-ouest de la France, les mêmes qui fournirent un fort pourcentage de colons à la Nouvelle-France. Ça, c'est incroyable, mesdames et messieurs. Et justement, certains ont quitté la France pour se rendre en Nouvelle-France. Et c'est pourquoi Michel Barbeau va mentionner que les Huguenots vont jouer un rôle dans la découverte et la colonisation de l'Amérique. Il va nous dire que les problèmes religieux que vivait la France et son intérêt vers le commerce dans la Méditerranée expliquent pourquoi la France accusait un certain retard dans la conquête du Nouveau Monde par rapport à l'Espagne et au Portugal. Outre un premier voyage d'exploration de la côte atlantique des États-Unis en 1524 par Jean de Verrazanne, il faudra attendre 1534. Pourquoi? Eh bien, pour que Jacques Cartier explore la Nouvelle-France. Vous vous souvenez, 1534. Une date historique. Ce voyage était l'initiative de qui? De Philippe de Chabot, un Huguenot, alors gouverneur de Bourgogne en Normandie. Jean Cartier, bien que lui-même catholique, fut issu d'une famille protestante. Et ça, mesdames et messieurs, c'est intéressant. On ne nous a pas raconté ça. Moi, je me souviens, quand j'étais au primaire, quand j'apprenais l'histoire du Québec, l'histoire de la Nouvelle-France, quand j'étais au secondaire, on ne m'a jamais dit que Jean Cartier était un catholique issu d'une famille protestante. La première colonie s'établit à Cap-Rouge, près de Québec, en 1540. Cette colonie est à l'œuvre de Jean-François de la Roque, sieur de Roberval, un Huguenot. Ça, je le savais, et savez-vous qui me l'a appris? Que le sieur de Roberval était un franco-protestant, un Huguenot. Eh bien, c'est Gilles Proulx, dans son livre d'histoire de la Nouvelle-France. Cette colline sera abandonnée en 1543, c'est simplement 3 années plus tard. La France se tourne alors vers le Brésil. le chef des protestants en France, l'amiral Coligny, veut créer une colonie refuge pour les Huguenots. Il confie à Nicolas Durand de Villegagnon de fonder une colonie. Villegagnon, ancien catholique fervent, devint un chaud partisan du protestantisme. Cela ne dura pas. La colonie fondée en 1555 sera détruite en 1565 par les Portugais après que Villegagnon, redevenu catholique, eut persécuté les protestants. Il aurait même noyé de ses propres mains trois missionnaires protestants. La tentative suivante fut celle de deux autres Huguenots, Jean de Ribaud et de Laudonnière. Ils tentèrent de s'implanter en Floride puis en Caroline. Cette tentative aura lieu entre 1562 et 1565. Ces colonies furent détruites par les Espagnols. L'assassinat de Coligny lors de la Saint-Barthélemy, vous savez, c'est cette bataille-là, cette guerre qui a mis à feu et à sang les protestants en France. Eh bien, l'assassinat de Coligny au moment de la bataille de la Saint-Barthélemy va mettre fin à l'intention de créer des colonies refuges pour les protestants. Parce que c'était ça leur objectif, les protestants, c'était de pouvoir se réfugier dans cette terre nouvelle. Si on exclut la tentative malheureuse à l'île de Sable en 1598, le prochain grand épisode est l'établissement d'une colonie à Tadoussac en 1600. Cette colonie, qui ne durera qu'un an, fut l'œuvre de Pontgravé et Chauvin. Chauvin était huguenot. Et moi, je me souviens, j'ai été souvent à Tadoussac, spécialement dans les années 80, et on voyait, lorsque j'y allais, et elle est encore là, cette petite chapelle de Pierre Chauvin. Et on avait toujours l'impression que c'était une chapelle catholique, une chapelle du début de la Nouvelle-France. Mais Pierre Chauvin est un protestant, est un huguenot. Chauvin était huguenot et il n'amènera d'ailleurs que des ministres protestants dans la colonie. Un autre huguenot, Pierre Dugoy de Mont, était observateur lors de cette tentative à Tadoussac. C'est à lui que l'on confiera la mission suivante. Il présidera aux premiers établissements définitifs en Acadie et à Québec. Donc, un huguenot est à l'origine de la fondation de Québec. On peut se poser des questions sur les origines religieuses de Champlain lui-même. Natif de Brouage, une ville protestante, il porte un prénom biblique comme c'était la coutume chez les protestants. De plus, il épouse Hélène Boulay, une protestante. Jusqu'à 1627, le monopole de la traite des fourrures appartient à deux protestants, Guillaume et Émery de Caen. En 1627, leur monopole est révoqué en faveur de la Compagnie des Sans-Associés. Notons que c'est aussi l'année du siège de La Rochelle. C'est à partir de là qu'il fut interdit de faire passer des protestants en Nouvelle-France. La France craignait entre autres que les Huguenots s'allient avec les colons anglais et hollandais des colonies américaines. Déjà que les frères Kirk avaient engagé un huguenot, Jacques Michel, comme pilote pour la remontée du Saint-Laurent lors de leur conquête de Québec en 1628. Mais ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, cette interdiction ne fut pas respectée puisqu'on le retrouvera plusieurs huguenots qui vinrent s'établir en Nouvelle-France. Et donc, j'espère que cette page d'histoire a piqué votre curiosité, mesdames et messieurs, parce que ce récit historique de Michel Barbeau dresse ainsi la table pour les cinq prochaines émissions. À partir de demain, je vais me référer principalement à l'histoire du protestantisme français au Canada et aux États-Unis, écrite par Rieul Duclos. Nous verrons que les Huguenots ont quitté la France dans l'opposition et la persécution et que malgré leur désir d'établir une terre de paix et de liberté, les franco-protestants sont confrontés deux siècles plus tard à vivre des tensions qui ont marqué ces familles qui n'avaient qu'un seul motif, vivre sereinement leur foi en français. Demain, il sera question de l'arrivée des franco-protestants en Amérique du Nord. Et donc, mesdames et messieurs, c'est déjà le temps de clore cette émission. Si vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. C'est leblogueur@ericlantier.net. leblogueur@ericlantier.net. Je vous invite également à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. N'oubliez pas que cette émission est en tout temps disponible sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir syntonisé le 92,7 FM et je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le Tour d'Horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. Leblogueur@ericlantier.net. Tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!